bien, nous allons nous plonger au cœur d'une projection. Et l'horizon que nous allons regarder, c'est 2050, c'est dans 26 ans. Et on va faire le point sur les 4 scénarios. Alors, pour les puristes, on dit scénarii, mais j'ai du mal, donc je vous propose qu'on dise scénario, même au pluriel. 4 scénarios de futurs possibles décarbonés. Vous les connaissez peut-être, ils ont été imaginés par l'ADEME. Et j'invite un duo composé d'Éric Prudhomme, directeur général de l'ADEME des Pays de la Loire, et Florian Rollin, ingénieur produit biosourcé au siège de l'ADEME à Angers. Bienvenue messieurs. Alors voici vos outils. Merci. Pour commencer. Et également la petite zapette.
Merci beaucoup. Alors, merci aussi de me qualifier de directeur général. Je ne suis que le directeur régional de l'ADEME, oui. Pays de la Loire. Voilà, et pas encore directeur général de l'ADEME, en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être aujourd'hui devant vous. Ce n'est pas un auditoire dont on a l'habitude avec mon collègue. Vous êtes très nombreux et effectivement les enjeux de votre secteur d'activité ont été extrêmement bien décrits par les intervenants. Et donc ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui avec Florian, c'est nous ce qu'on a imaginé justement dans ce nouveau monde. Et l'ADEME, en tant qu'opérateur de l'État, Agence de la Transition Écologique, et là aussi pour éclairer vos choix, éclairer les choix des collectivités, éclairer les choix des entreprises et aider les particuliers également à entrer dans ce nouveau monde. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi, il y a 2 ans, de faire un exercice de prospective en regardant à 2050 et en se disant qui nous serons, en 2050, quelle sera notre société et comment nous vivrons. Et ça, c'était assez inédit pour nous, parce que l'ADEME, c'est effectivement un monde d'ingénieurs, d'experts. On est plutôt à raisonner généralement sur des questions techniques, technologiques. Et là, on s'est posé la question différemment, en essayant de faire des récits, justement, de ce que serait le monde en 2050, et de comment nous vivrions, comment on habiterait, comment on se déplacerait, comment on se nourrirait. Et c'est à partir de ces récits-là qu'on a construit et qu'on a bâti ces 4 scénarios que vous allez voir très différents, justement, pour donner à voir, justement, à nos politiques. Petite anecdote, on avait fait cet exercice pour les élections présidentielles. En se disant, ça va animer le débat. Vous avez vu le résultat sur ce sujet, en tout cas. Mais en tout cas, ça a été un exercice vraiment fondateur qui a demandé 2 ans de travail de nos ingénieurs, plus d'une centaine d'ingénieurs. Et donc, on a fait ces scénarios et on les présente aujourd'hui dans plusieurs instances, devant des collectivités, devant des secteurs comme le vôtre, etc. Pour justement se projeter et réfléchir finalement à des choix de société, puisque ça a été très bien dit effectivement par les différents intervenants. Il y a un vrai choix de société à faire pour demain, pour arriver aux enjeux qui sont devant nous et aux défis qui sont devant nous, et en particulier le défi climatique. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter avec Florian pendant cette heure. Et donc, on vous mettra, il y a bien sûr toute la littérature, puisque ça a donné lieu à énormément de documents. Bien sûr, il y a un rapport de 600 pages, avec une partie sur justement le logement, que vous pourrez lire. Et puis, il y a un certain nombre de feuilletons qui sont effectivement sur des secteurs particuliers. Alors, il y a 2 ans, vous aviez eu l'intervention du GIEC Pays de la Loire, donc on n'y reviendra pas avec Florian, parce que vous aviez vu qu'à travers cela, le changement climatique, il est bien chez nous, il n'est pas dans d'autres pays du monde, il est bien déjà en France, vous l'avez toutes et tous observé aussi avec les périodes de sécheresse, avec les événements climatiques de plus en plus importants et de plus en plus violents. Donc voilà, aujourd'hui, on a mis cette carte pour vous présenter ce qui est aussi quelque chose d'important et qui touche aussi votre secteur d'activité, c'est effectivement les zones potentiellement inondables sur notre région. Donc le GIEC l'a très bien travaillé, et ça, je n'y reviendrai pas. Juste, puisqu'on parle de la neutralité carbone à 2050, simplement en 2 mots vous dire ce que ça signifie. En tout cas, la neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'en 2050 on sera à 0 émission de carbone. Ça veut dire simplement que nos émissions seront équivalentes à ce que nous pourrons stocker. Aujourd'hui, le stockage du carbone, généralement, c'est du stockage naturel dans nos forêts, dans nos haies, dans nos sols, etc. On commence à faire du stockage artificiel, en tout cas en allant capter du carbone, on le verra dans nos scénarios, mais l'idée, c'est qu'en 2050, effectivement, nos émissions, c'est-à-dire nos émissions nettes, soient effectivement nulles, et donc qu'on n'émette pas plus qu'on stocke. Ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, on est à peu près à 430 millions de tonnes de carbone par an émises. En 2050, il faudra qu'on soit à peu près à 60. Vous voyez donc que l'effort est immense par rapport à ça, et la loi aujourd'hui nous dit qu'il faudra passer par une réduction déjà en 2030 de moins 40%, et c'est l'exercice qui est en train d'être réalisé par la région et l'État au niveau régional, qui s'appelle donc la COP régionale, pour voir quels sont les leviers que l'on peut activer pour arriver déjà à ce premier niveau en 2030. Et bien sûr, votre secteur d'activité en fait partie dans la région Pays de la Loire. Si l'on prend le logement et le tertiaire, on est à peu près à 18% des émissions de gaz à effet de serre de la région sur ces deux secteurs. Et il y a déjà des leviers, vous allez les voir aussi dans cette journée, mais bien sûr à travers l'isolation des bâtiments et les énergies renouvelables, comme le disait l'intervenant de GRDF. Voilà, donc ça, c'est ça l'enjeu, c'est d'avoir cette réduction. Et donc, ce qu'on a fait à travers ces scénarios, je veux bien le slide suivant, s'il vous plaît, c'est de regarder quels étaient les champs possibles pour arriver à cette neutralité carbone et donc, comme je vous le disais, d'éclairer les décisions. Donc, on a fait 4 scénarios. Et ces 4 scénarios, vous allez le voir, effectivement, ils portent sur les modes de vie du plus frugal jusqu'au plus technologique. Et c'est ce qu'on va vous présenter avec des visions très contrastées et qu'on a documentées derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de justifier sur chacun de ces scénarios qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver effectivement à ces solutions. Et ce qui est intéressant, et qui parfois est un peu compliqué effectivement à comprendre, c'est que ces scénarios sont cohérents entre eux. C'est-à-dire que si on veut arriver à cette fameuse neutralité carbone, on ne peut pas prendre un bout d'un scénario, puis un bout de l'autre, etc., et on va y arriver. C'est souvent ce que nous disent les gens, on prendra un peu de tout. Mais non, si on veut arriver à la neutralité, vous verrez qu'il faut être cohérent dans l'ensemble de ces scénarios pour arriver à cette neutralité. Alors on va se faire un petit exercice avec vous, pour commencer justement, pour une mise en jambe.
On va avoir besoin que vous vous munissiez soit d'un papier et d'un crayon, soit de l'appli notes de vos téléphones. L'idée, c'est juste de pouvoir noter les réponses aux questions du petit quiz qui va commencer maintenant.
Parce que comme on est sur les modes de vie, vous êtes complètement concernés en tant que citoyen, bien sûr.
Il n'y a pas besoin d'un gros papier.
C'est très simple, vous allez voir, c'est vraiment une mise en jambe. et donc, on va vous interroger vous-même sur qui vous serez en 2050. Voilà. Donc je vais laisser Florian dérouler ce petit quiz et puis pouvoir répondre à ces différentes questions.
Ouais, si jamais vous n'avez ni papier ni téléphone, vous pouvez toujours compter sur vos doigts.
Oui, voilà. On peut faire du calcul mental, ça devrait être...
C'est gérable. donc on va s'imaginer en vacances à la plage, sur une plage de la Baule. Ah non, pardon. Voilà, c'est mieux. C'est les beaux jours. En plus, on est juste à côté. Et on va faire un quiz psychologique, les tests psychologiques que vous connaissez, que vous avez tous vus dans les magazines, mais qui va vous permettre à chacun de voir dans quel scénario vous vous retrouvez parmi les 4 scénarios de transition 2050 de l'ADEME. Donc, je vais aller assez vite, il y a une série de questions qui sont très simples, vous n'avez pas à réfléchir pendant une demi-heure pour chaque question, vous faites la première qui vous vient à l'esprit. Donc votre devise déjà, vers l'infini et au-delà, moins mais mieux, les copains d'abord, ou bien en vert, je vois la vie en rose. Je précise juste pendant que vous réfléchissez, que c'est un test qui a été fait dans un tiré à part de So Good, qui est un magazine qui a repris nos scénarios au moment de leur sortie. Je passe à la suivante. Donc, chaque, vous pouvez noter si vous avez quel symbole vous avez choisi. Les vacances, puisque ça va bientôt être le cas en cet été, est-ce que vous allez à Hawaï ? Pour notamment ramener des souvenirs, à Dieppe, pour le concours de cerf-volant, dans la forêt à côté de chez vous, pour ramasser des champignons, ou enfin au Caire, pour être au concert de Nemo. C'est bon pour tout le monde. C'est bon de mes mots, j'ai reprécisé qui c'était pour ceux qui ne suivraient pas suffisamment l'actualité.
Oui, parce que moi, j'étais encore sur le petit poisson, mais c'est pas pareil. Voilà,
mais oui, mais il faut vivre avec son temps.
C'est ça. Merci. Là, d'un coup...
Non, non, moi, je ne savais pas non plus, j'étais sur le poisson aussi. Hein, je vois
ah, merci. Tout va bien.
Ensuite, votre jour préféré, le lundi, c'est des raviolis végétariens. Le 1er jeudi de janvier avec l'ouverture du CES de Las Vegas, le Black Friday ou encore Noël pour les partages des cadeaux. On passe à la suite, le héros ou l'héroïne.
Ça va, vous avez le temps quand même ? Ouais, ça va un peu vite si je peux me permettre, Florian.
Alors, excusez-moi.
Ah, parce que comme en plus il y a des petites choses qui sont rajoutées.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Parce qu'après il y a la correction en plus. Ok. Le héros, l'héroïne dans lequel vous souhaitiez vous réincarner ou vous voudriez être. Donc Lara Croft, Wonder Woman, Iron Man. Et là, c'était pas comme ça dans le tiré à part, c'est moi qui ai rajouté la dernière. Qui sont tous ces gens ? C'est bon pour tout le monde ? Alors, on enchaîne. Vous avez un ami, une amie à inviter pour un premier rendez-vous, un rencard, hein, comme on dit. Est-ce que vous allez sous l'érable champêtre, dans la forêt urbaine, en e-tourisme, donc virtuel à Xucutaco, une ville précolombienne disparue, dans le câble férique qui passe au-dessus de la ville, ou bien dans votre ordinateur, puisque votre ami est une personne virtuelle. C'est bon.
Ça va ?
Il n'y a que 9 questions, hein, je vous rassure. On n'y passe pas toute la matinée. Alors, la personnalité avec laquelle vous aimeriez bien dîner, Alexandria Ocasio-Cortez, donc qui était une vice-présidente qui s'est présentée aux élections américaines et qui portait le Green New Deal notamment. Elon Musk, qu'on ne présente pas, je pense. Bill Gates, qu'on ne présente pas non plus. Et Pierre Rabhi. Que je ne présente pas non plus.
Voilà.
Mais vous avez une petite phrase à chaque fois qui explique ce que la philosophie de chacun en 2 mots.
On va laisser juste quelques secondes encore.
Bien sûr, oui. Ouais. C'est bon. Alors, 7e question. Le menu pour ce dimanche. Un onglet de bœuf, béarnaise, frites, crème cacao à la mangue. Du fenouil caramélisé avec un wakame et des graines germées cannelées sans gluten en dessert. Une salade de radis et tomates séchées, un dalle de lentilles, au lait de coco et un carpaccio de fraises au basilic. Oh, ça va qu'il est que 10 heures, sinon ça aurait mis tout le monde en appétit. Et steak de soja, croustilles de légumes, plateau de fromage, yogourt aux fruits.
Et on peut piocher ? Non, on a dit qu'on n'avait pas le droit. C'est comme les scénarios de l'ADEME. Ouais. C'est
essayez de mettre
cohérence.
Une réponse. Après, si vraiment il y en a deux qui vous tentent...
Okay.
Vous pouvez en noter 2, c'est pas très grave.
Très bien. On passe à la 8e.
C'est bon pour le menu. Normalement, ça va assez vite. Votre après-midi, lire un livre au fond du potager, regarder votre montre avec des stats sur toutes vos constantes santé et autres, regarder des vieux films comme Avatar 12, ou bien préparer votre mix pour la soirée au bureau de poste qui aura lieu dans quelques jours, dans le soir même.
Au bureau de poste.
Au bureau de poste, parce que le bureau de poste a été reconverti en salle de fête, donc occasionnellement.
Ah.
Voilà. C'est la chronotopie, on va en reparler.
Et oui.
Et enfin, le sport préféré, piloter une navette spatiale en e-sport, le jogging pieds nus dans les prés, du sport, jamais de la vie, ou enfin le combo vélo producteur d'électricité et haltère en bois.
Voilà, voilà.
C'est bon pour tout le monde. Bon, c'est pas le questionnaire de votre vie, hein. N'y mettez pas trop d'importance. Je repasse la parole à Eric pour les résultats. Donc voilà, là, vous pouvez totaliser vos scores. Et ensuite, on va vous demander de lever la main, simplement, pour quand on présentera les réponses.
Voilà, donc on vous laisse le temps de faire vos scores et donc on va maintenant vous interroger sur justement ces scores-là et que vous puissiez lever la main quand vous êtes parti de la catégorie. Voilà. Donc si vous avez une majorité de carrés, vous êtes de la génération frugale. Alors,
vous pouvez lever la main. Les carrés.
Osez, n'ayez pas peur.
Non, quand même.
Moi, je lève la main aussi.
Très bien.
C'est bien ?
Ah, je suis étonné, je suis même étonné.
Vous avez dit très bien, donc...
Généralement, ouais, il y en a moins.
Généralement, il y en a moins. La seconde, c'est pour les ronds. Là, vous êtes plutôt sur le coopératif, la coopération territoriale. Pareil, un nombre important aussi de personnes. Le troisième, l'étoile, c'est vous êtes technologie verte. Très bien.
Un petit peu moins. Ah,
il y
en
a très peu. Et puis le dernier, donc les triangles, vous êtes... Le pari réparateur.
Ah.
Très bien. Eh bien. Écoutez, je suis très étonné de ce résultat de vote.
C'est mieux réparti en général.
Voilà, c'est mieux réparti. Et effectivement, on est plutôt sur les 2 et 3, c'est-à-dire coopération territoriale et technologie verte. Je vois qu'il y a effectivement de l'engagement chez vous, puisque la génération frugale a été nombreuse dans cette salle. Alors justement... Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ces scénarios, et maintenant vous allez mieux comprendre par rapport aux questions que vous venez de répondre et l'état d'esprit de chacun de ces scénarios, puisque là vous avez les titres effectivement qu'on a repris dans ces scénarios, qui expriment ce qu'ils sont en tout cas. Génération frugale, en 2050, c'est une population qui est en recherche de sens. Pour elle, son rapport à la nature, son rapport effectivement à l'environnement est très fort. Et donc, on va être plutôt dans une génération qui va être sur la low-tech, c'est-à-dire qui sera plutôt sur de la technologie qu'on va pouvoir réparer, réemployer, réparer soi-même. Et on va être surtout sur du localisme, c'est-à-dire on va vivre... dans un rayon assez limité, dans lequel on peut se déplacer en mode doux, en marchant, à vélo, ou autre, mais très peu en voiture, où les gens se déplacent presque plus à l'international, et donc avec un régime alimentaire qui effectivement est pas végétarien, mais en tout cas qui diminue fortement les proportions de viande, et qui habite... dans des logements qui ont été rénovés massivement, c'est-à-dire dans lesquels on a assez peu construit, en tout cas. Et donc, et on le verra, on vous le montrera un peu en photo, on est plutôt sur un monde où on est dans le milieu rural, en tout cas ce qu'on connaît du milieu rural aujourd'hui, donc plutôt des petites villes, etc., nombreuses, et encore une fois avec tout à proximité, ou à peu près tout à proximité. Ça, c'est le premier, génération frugale. Le second, on est là aussi sur la recherche de sens, mais ce qui est important pour les gens, c'est de travailler ensemble, d'agir ensemble et de rechercher la coopération. Et donc, on est dans l'économie du partage. On ne va plus acheter une perceuse pour soi tout seul, une tondeuse, etc. On va l'acheter à plusieurs, on va la partager. On ne va plus habiter forcément dans des logements qui, à un moment donné, vont pouvoir être aussi partagés, mais qui vont pouvoir avoir d'autres... utilités ou en tout cas usages. On va pouvoir partager des bureaux qui le soir vont se transformer en lieu d'accueil pour des associations, des citoyens, etc. Donc on va être vraiment dans le partage et dans une gouvernance ouverte, c'est-à-dire que la décision, elle sera véritablement partagée depuis le citoyen jusqu'aux collectivités et aux entreprises. Et donc on est vraiment dans cette coopération territoriale très forte. Et donc, avec là aussi derrière une fiscalité environnementale, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus forcément PIB simplement, mais beaucoup plus largement. Coopération territoriale, on coopère, on partage. Le troisième, technologie verte. Là, on va aller chercher toutes les technologies matures qu'on connaît. L'interlocuteur GRDF en parlait tout à l'heure. Hein. Il y a déjà des choses qui existent, qui marchent, qui sont effectivement, qui permettent de décarboner. On va chercher tout ça. Et on va effectivement aussi beaucoup utiliser le numérique pour pouvoir piloter l'ensemble de ces technologies. Donc on est dans un scénario où finalement on va exploiter tout ce qu'on a autour de nous, et en particulier la biomasse, et donc ça va poser une question sur un moment donné, cette utilisation massive de la biomasse, est-ce qu'on va pouvoir y arriver en tout cas ? On va chercher de l'hydrogène, et puis on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus métropolitain, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même des villes assez importantes, parce que globalement ces technologies demandent de la densité pour pouvoir être mises en œuvre. Donc là, on va essayer là, par rapport à l'habitat, on va essayer de faire un mix entre je déconstruis, je reconstruis, mais là encore avec des technologies assez matures, du préfabriqué ou des choses comme ça. Et puis enfin, le dernier scénario, là c'est open bar, on continue à vivre comme on vit aujourd'hui et encore plus, on voyage, etc. Mais c'est la technologie qui va nous sauver, c'est-à-dire qu'on va inventer, trouver des nouvelles technologies qui vont nous permettre effectivement de compenser nos émissions qui seront effectivement très fortes, puisque là, du coup, on va faire de l'étalement urbain, on va construire, etc., etc.
Gardez bien le micro au niveau du menton. Merci.
Sur ces quatre scénarios, je l'ai dit, on doit atteindre la neutralité carbone. Dans les deux premiers, avec ce mode de vie, on arrive, le premier oui, on arrive à compenser avec du stockage naturel. Nos forêts, nos haies, comme je disais tout à l'heure, nos sols, etc. Dans le deuxième, à peu près, on commence un tout petit peu à devoir effectivement aller chercher du CO2. Et dans le troisième et le quatrième, on va aller chercher du CO2 à la sortie des usines qui en émettent, pour le 3. Et pour le 4, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va aller capter le CO2 dans l'air, au-delà des cheminées, on va aller capter ce CO2 sur des technologies qui aujourd'hui n'existent pas. Et c'est à ce titre-là qu'on va pouvoir faire de la neutralité carbone, parce qu'on fait du captage artificiel. Voilà les quatre scénarios qu'on a imaginés. Vous le voyez, en termes de mode de vie, ils sont très différents. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens, comme on l'a fait avec vous, on essaie de voir un petit peu où les gens se situent. Et d'ailleurs, on avait posé une question un petit peu à un panel qui n'était pas représentatif, mais en tout cas, on leur avait dit qu'est-ce qui pour vous est désirable et qu'est-ce qui pour vous est faisable. Le scénario 2 tombe souvent dans le désirable, et le scénario 3 dans le faisable. Alors voilà, si on peut imaginer ce que veut dire par rapport à votre secteur d'activité les scénarios, vous voyez que dans le premier, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus frugal, on va pouvoir avoir cette petite maison qui en plus est mobile, dans laquelle on va pouvoir vivre, on n'a pas besoin d'avoir une grande maison avec un grand jardin, une grande verrière avec 300 mètres carrés, etc., etc. On est dans quelque chose de très contrasté. Donc ça veut dire que ces choix-là, ils sont vraiment très importants, et en termes d'enjeux, ça veut dire que derrière, on ne va pas faire du tout les mêmes choses. Et donc, vous le voyez dans les deux premiers scénarios, on va être plutôt à limiter les impacts par le mode de vie, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement que tout à chacun, citoyen, collectivité, entreprise, change leur mode de faire, véritablement, pour réinterroger le besoin, de quoi j'ai besoin, par exemple, c'est donc la question de la sobriété. Et puis, plus on va aller vers le 4, plus on va essayer de compenser les impacts, finalement, de nos modes de vie, parce qu'on va continuer à émettre des gaz à effet de serre. Et on voit bien que, du coup, par rapport aux défis qu'on va avoir à travers ces scénarios, ce n'est pas du tout les mêmes. Dans le premier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, qu'on réussisse dans un temps très court, une évolution rapide et importante de nos modes de vie. Donc ça, vous imaginez aujourd'hui, quand on interroge un petit peu chacun sur qu'est-ce que je suis prêt à faire, c'est pas toujours évident, et on a tous un peu nos contradictions, en tout cas dans ce domaine-là. Même si j'ai vu que vous étiez beaucoup à avoir répondu sur la frugalité, en tout cas.
Il va y avoir beaucoup de tiny house à construire.
Voilà, donc ça c'est important. Et d'ailleurs, ce scénario, je le dis là, il est extrêmement clivant. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas envie de me restreindre, j'ai envie de vivre, etc. Je ne suis pas là sur Terre pour me serrer la ceinture, etc. Et puis d'autres qui disent, mais si on veut sauver la planète, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut que tu arrêtes d'acheter un t-shirt si tu n'en as pas besoin. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne des dévendeurs de l'ADEME, mais elle a fait beaucoup de bruit parce que justement, à un moment donné, on parlait réparation remploi, mais on disait, est-ce que vous avez besoin d'acheter un deuxième t-shirt si vous en avez déjà un qui est très bien? Bon. Donc là, c'est très clivant, ça. Le deuxième, c'est là, arriver à ce que les gens travaillent plus en coopération, en concertation, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on voit déjà sur les territoires, très fort. Les élus, aujourd'hui, là-dessus, sont très clairs. C'est-à-dire que des projets de transition écologique qui marchent aujourd'hui dans les territoires, ce sont des projets de coopération dans lesquels on va retrouver les élus, les citoyens, les entreprises. Le troisième, c'est de trouver un peu cette ligne de crête, pas facile, entre je décarbone et je change mes modes de vie. Parce que dans le scénario 3, il va falloir quand même un peu changer ses modes de vie quand même, puisqu'on est sur des technologies vertes aussi. Donc on a quelque chose un petit peu en ligne de crête et pas toujours évident. Et puis le quatrième, là c'est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui n'existent pas, et en particulier ce fameux captage du CO2 dans l'air, il va falloir l'inventer. Et donc ces technologies-là, souvent, elles mettent beaucoup, beaucoup d'années pour être inventées et matures. Et donc, est-ce qu'on sera au rendez-vous de 2050 sur cette innovation? En tout cas, aujourd'hui, il y en a qui y travaillent. On a vu quelques noms tout à l'heure dans le quiz, par exemple. Voilà. Donc ça, simplement, c'est pour résumer, vous comprenez. Sur les deux premiers, on est sur la sobriété, sur l'efficacité, c'est-à-dire, je vais mettre en place une solution, mais comment je l'utilise de bonne manière pour que finalement elle soit efficace. Voilà. C'est-à-dire que quand vous faites de la rénovation de bâtiments, quand vous isolez, vous faites de l'efficacité énergétique. Si derrière vous mettez de l'énergie décarbonée, comme une pompe à chaleur ou du solaire thermique, etc., là vous êtes dans l'énergie décarbonée. Donc ça, ce sont effectivement les scénarios plutôt 3 et 4. Et puis enfin, d'aller chercher des puits de carbone technologiques, c'est-à-dire effectivement plus artificiels. Voilà ces quatre scénarios, rapidement, et puis je vais passer la parole à Florian, parce que j'ai peut-être été un peu long, mais on voit effectivement qu'en fonction à la fois de la consommation de viande, à la fois de la construction neuve, etc., des véhicules, on voit qu'effectivement ces scénarios sont très très différents en termes de production. Mais on voit sur la base 100, c'est effectivement 2015-2019, on voit que voilà, certains s'en approchent, certains le dépassent effectivement sur certaines choses, mais en tout cas on est toujours en dessous, parce qu'il y a un sujet important qu'il faut avoir à l'idée, c'est que quel que soit le scénario, il faudra qu'on réduise notre consommation énergétique, quel que soit le scénario. Et ça, c'est une grosse question aussi dans le scénario 4, qui est un scénario aussi un peu compliqué, parce que je vous le disais, d'abord il y a la question de l'innovation, mais il y a aussi la question de la capacité à produire de l'énergie pour toutes ces technologies, sachant que voilà, il y a d'un côté effectivement cette réduction de la ressource en termes d'énergie fossile, et puis à un moment donné, comment on fait toute cette électricité, puisqu'en fait on va vers un monde de plus en plus électrique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà.
Merci.
Je laisse la parole à Florian. Pour continuer
pour un focus peut-être sur voilà, les secteurs particuliers de l'immobilier, de la construction.
Oui, bon, j'ai passé cette séance, on a moins de temps. Effectivement, on voulait ensuite détailler un petit peu sous forme de trois questions, ce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire plus, et puis c'est suffisant, je pense, pour aborder quelques sujets que soulèvent ces scénarios liés à votre secteur. Le premier, alors ça va peut-être, vous allez voir le lien très rapidement ensuite, mais on voulait d'abord vous parler des sols. Donc les sols qui sont une ressource sur laquelle on s'intéresse souvent assez peu parce qu'on n'en prend pas conscience, elle est sous nos pieds, et souvent on ne voit pas forcément ce que ça nous apporte. Mais là j'ai remis quelques chiffres qui sont quand même importants, notamment sur les sols dégradés, qui représentent pas loin des deux tiers des sols de la planète, qui ont été dégradés de diverses manières. Mais l'importance aussi qu'ils ont, pour reprendre ce qu'expliquait Eric, la neutralité carbone, on pourrait l'atteindre si d'un autre côté, pour compenser nos émissions, on a du stockage. Et ce stockage, il se fait aussi énormément dans les sols. Donc il y a aussi une importance de préserver les sols, parce que c'est eux qui vont garantir derrière qu'on puisse atteindre la neutralité carbone. Et il y a une partie de menace. Alors c'est peut-être un peu fort de dire que les principales menaces sont liées au BTP, à l'immobilier, mais évidemment l'artificialisation, c'est un des sujets. Donc dans les scénarios qu'on a fait, on a regardé un peu ce que ça donnait en termes d'artificialisation. Les scénarios 1 et 2, sans surprise, ils permettent une réduction importante de l'artificialisation et donc ils répondent un peu aux objectifs. Notamment, ils permettent d'aller à plus de 50% d'artificialisation en moins, jusqu'à 80% même. Tandis que les scénarios 3 et 4, évidemment, il y a davantage d'artificialisation, donc on est quand même inférieur au tendanciel. Mais même dans le S4, en étant inférieur au tendanciel, il faudrait compenser, si tant est que ce soit possible, avec l'équivalent de deux fois la surface de Paris. Est-ce qu'on arriverait à renaturer, est-ce que ça veut dire renaturer des espaces qui sont aujourd'hui artificialisés, l'équivalent de deux fois la surface de Paris, c'est pas du tout gagné. Mais c'est pour vous indiquer un peu ce que ça implique derrière ces différentes trajectoires en termes d'artificialisation.
En fait, c'est vraiment un mot pas facile à dire. Ça, je le remarque tout le temps.
Oui.
Derrière, il y a plein d'enjeux complexes, mais il n'est pas simple.
Voilà. Donc, il y a une vraie question sur la préservation des sols. Et le ZAN, c'est une des conséquences concrètes à l'heure actuelle, avec évidemment des questions qui se posent sur son application territoriale. Et là, je ne reviens pas sur le sujet, parce que ça a été largement débattu en introduction. La deuxième question, c'est celle de la rénovation. On a regardé alors plus largement que les scénarios de l'ADEME, tout un peu les scénarios de prospective qui ont été faits par d'autres acteurs que j'ai mis ici, qui sont cités. Dans tous ces scénarios, la conclusion, elle est la même, c'est qu'en 2050, l'entièreté du parc, à peu de choses près, a été rénovée à un niveau performance, c'est-à-dire à peu près du BBC rénovation. On a une baisse des consommations de chauffage de l'ordre de 60 à 75%, donc une baisse très drastique des consommations de chauffage. Et la même chose sur l'eau chaude. Alors, ça peut paraître souvent un sous-sujet, mais qui est aussi important, parce qu'il y a des consommations qui sont aussi énormes. Et comment on arrive à ça? Pareil, dans tous ces scénarios, globalement, les leviers sont les mêmes. L'éradication du fioul, une baisse importante des logements chauffés au gaz, et une électrification, notamment via les pompes à chaleur. Il y a aussi le recours au bois énergie, alors qui est variable selon les scénarios, là pour le coup, mais qui est quand même nécessaire pour décarboner aussi le chauffage et l'énergie dans les bâtiments. Ça, je ne reviens pas dessus. Alors évidemment, juste un mot là-dessus, en fonction des scénarios, on a quand même des taux de rénovation qui sont plus ou moins importants, mais on est dans tous les cas au niveau tertiaire à plus de 60% de rénovation, et dans le logement, pour le scénario 4 qui est le plus défavorable à la rénovation, ça va être quand même 40%. Donc un chantier énorme, et on est plutôt vers les 70-80% dans la plupart des scénarios. Et la question que je voulais poser, et à laquelle on est arrivé, parce que je pense que de toute façon c'est un constat que vous partagez, c'est plutôt les efforts en termes de compétences et de changement de compétences que ça va demander, puisque ça impose une transition des compétences dans le secteur de l'immobilier et du BTP, qui est quand même assez brutale et assez important. Pour donner une idée, alors le rythme, c'était 4000 emplois par an en moyenne, mais ça c'est si on avait commencé il y a une dizaine d'années, donc là ça va être plutôt 10 000 emplois à faire transitionner depuis le neuf vers la rénovation. Et donc c'est un changement de pratique. Alors là on pense à l'artisan qui doit se former pour faire de la rénovation, mais pour moi ça va beaucoup plus loin, ça, c'est ce qui a été aussi un peu abordé en introduction, c'est un changement des métiers de l'immobilier même de manière générale. Et pour aller sur la rénovation, c'est plus les mêmes bilans promoteurs, c'est plus les mêmes choses, ça change énormément d'aspects de vos métiers. Et donc là, il y a un champ à investir, pas uniquement en termes de business model, mais aussi de formation des collaborateurs, et qu'il faut entamer dès maintenant. Donc ça, c'est la deuxième question, et comment on va faire pour former tout le monde. Alors j'ai été content de voir que justement il y avait l'ESPI aussi qui était là, et qui est une partie de la solution, parce que les écoles ont leur rôle à jouer. Et puis enfin, le dernier sujet, c'est bâtir moins, mais mieux. Le point commun de tous ces scénarios aussi, donc pas uniquement l'ADEME, je le répète, c'est que de toute façon, le ralentissement démographique va amener une baisse de logement globale. Alors ça, c'est en moyenne sur le territoire français. Évidemment, il peut y avoir des différences d'attractivité territoriale ensuite, mais globalement, il va y avoir une baisse du besoin en logement neuf, qui va être durable. Et notamment sur les maisons individuelles, plutôt pour des questions de ZAN. C'est évidemment quelque chose qu'il faut dès maintenant anticiper. On est déjà quelque part en haut du pic démographique, et donc on est déjà dans cette dynamique. Et donc là, les points communs un peu et sur les leviers, c'est notamment ce qui permet de baisser le besoin en logement neuf, de toute façon, notamment la mobilisation du parc existant avec les logements vacants ou les résidences secondaires. Il y a des questions quand même qui se posent qui ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, sur les logements vacants, c'est quand même une constante depuis un bon moment. Sur les pratiques aussi de cohabitation, Eric en a parlé sur le scénario 2 notamment, mais il y a aussi sur la chronotopie, donc c'est-à-dire comment on réutilise des espaces qui sont laissés vides, soit la nuit parce qu'on y travaille le jour, soit le jour parce qu'on y dort la nuit. Très simplifié. Et enfin, la meilleure adéquation entre la surface du logement et puis le nombre de personnes, puisqu'on a vu que la tendance actuelle, c'était encore d'augmenter la surface par adulte. Ça, comment on arrive à inverser la tendance en proposant d'autres choses et d'autres modalités. Et donc, le dernier point, évidemment, c'est pour ce qui va, par contre, falloir construire, ça va être, par contre, le faire avec un très faible impact environnemental. Donc là, c'est la RE 2020, mais plus loin aussi, parce qu'après, il y a les prochains seuils qui vont arriver, et la mixité des modes constructifs, notamment, qui est aussi un sujet important. Donc là aussi, il y a ce besoin de limitation de l'acte de bâtir, et comment on va aussi répondre à ce challenge. Alors, ça peut faire un petit peu peur de dire bâtir moins. Faut savoir qu'aussi, dans ce scénario, il y a eu des projections économiques qui ont été faites, donc par des économistes, et globalement, l'ensemble des scénarios, même le S1 qui peut paraître être un scénario de décroissance, en fait, globalement, tous, ils amènent de la croissance. Alors, par rapport au tendanciel, on est même au-dessus dans les trois scénarios S2, S3, S4, donc à chaque fois on n'est pas dans des scénarios des scénarios de décroissance, et pour rassurer un petit peu aussi sur ce que ça, les impacts économiques que peuvent avoir ces choix, globalement ça reste viable économiquement. Et je termine juste pour peut-être sur une note un peu plus poétique, pour vous montrer aussi, de donner à voir visuellement ce que ça serait en 2050 si on appliquait ce scénario. Donc c'est une école de paysagistes qui a fait ça, ça permet de boucler sur la formation aussi. Elle a groupé S1, S2 et S3, S4. Donc là, c'est un aperçu de ce que donnerait l'application des S1 et S2 dans la ville en 2050. Je ne commente pas spécialement. Hein, voilà, on sera tous barbus, à part ça.
Je ne suis pas sûre, moi, d'avoir envie de ça. Mais...
c'est les hipsters, je sais pas, chacun son choix. Hein. Et ensuite, S3, S4, voilà une vision qui est plus, c'est ce que disait Eric, hein, c'est, on ne change pas spécialement nos modes de vie. Donc là, il y a quelques points quand même qui sont un peu les tendances actuelles sur certaines technologies, mais sinon, ça reste ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis surtout, à l'échelle, et je termine là-dessus parce que, on parle d'immobilier, mais c'est derrière l'immobilier, et je reviens là-dessus parce que pour moi c'est un point important, c'est tous nos modes de vie, l'aménagement du territoire, donc il y a tout l'urbanisme derrière, et ça façonne aussi notre rapport à notre environnement. Aujourd'hui, le rapport à la nature qu'on a, il est aussi dégradé parce qu'on vit dans des endroits qui sont aseptisés, où la nature est absente. Et ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu, et donc l'aménagement du territoire derrière et la place qu'on laisse à la nature, ça va aussi façonner notre relation au vivant, qui est aujourd'hui une grosse question et aussi un gros frein à la transition. Donc ça, c'est ce que ça donne au niveau du S1 sur l'aménagement d'un territoire, qui est fictif ici, hein, évidemment. Et dans le S4, alors j'ai pris les deux opposés. Bon, ils ont poussé jusqu'à mettre une petite bulle de pollution au-dessus de la ville. Voilà. Et enfin, il y a des références, il y en a tout un tas de références, où vous avez les liens ici, si vous voulez creuser lors de vos nuits d'insomnie.
Merci beaucoup. Eric, vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
Non, simplement, en regardant simplement la synthèse et le résumé exécutif, déjà, vous avez c'est 7 et 20 pages, donc ça se lit très, très facilement et ça reprend bien tout ce qu'on vous a dit. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement les feuilletons. Et vous voyez que vous en avez un sur la construction neuve. Et là, c'est très fouillé. C'est-à-dire que ça décrit vraiment les scénarios et à quoi on devrait aboutir si on veut tel et tel scénario. Donc ça, en tant que secteur de... Enfin, de la construction, je vous invite à aller regarder celui sur la construction.
Ce sont des ressources libres,
téléchargeables. Oui, complètement, libres d'accès, téléchargeables sur le site. Transition 2050. Et ça s'appelle maintenant, ça n'a pas changé de nom, c'est pas Futur quelque chose. Non. Ouais. Bon, de toute façon, vous le trouverez en tapant ça, vous le trouverez. Il n'y a pas de souci.
Alors, on a quelques minutes pour éventuellement une ou deux questions, une envie de préciser quelque chose, peut-être, sur ce qui vient d'être présenté. N'hésitez pas, le micro est là. Il suffit de lever la main pour qu'on vous identifie. J'arrive. Je peux le faire. Hop là.
Vos scénarios, ils sont pour la France ?
Oui.
D'accord. Et quel est l'impact en fait de ces scénarios à l'échelle mondiale ?
Alors effectivement, pour l'instant, ils sont franco-français. Donc votre question est tout à fait pertinente. Et là, on est en train de lancer un second exercice pour 2060. Où là, justement, on va avoir plutôt cette... on va regarder aussi au niveau international, parce que, effectivement, la remarque que vous faites est très souvent faite en disant, bah oui, d'accord, la France, mais s'il n'y a pas que la France, quoi. On est sur un marché mondialisé, etc. Donc, il faut prendre en compte les autres pays. Donc, oui, ça, pour l'instant, c'est très franco-français.
Il y a une question à gauche, après, aussi.
Ah, super. Alors là et là, je ne sais pas qui était le premier, mais vous êtes prête. On vous écoute.
Bonjour. J'aurais une question par rapport au scénario. Est-ce que vous pouvez préciser l'impact sur les écosystèmes et notamment sur les enjeux de construction durable et d'utilisation de matériaux biosourcés ?
Oui. Alors, c'est justement une des slides que j'ai passées. Merci beaucoup. Je vais pouvoir revenir dessus. J'ai très rapidement... on a quantifié dans un deuxième temps les impacts de ces scénarios sur les écosystèmes, donc l'environnement, c'est la partie en bas, mais aussi les impacts sanitaires et les impacts socio-économiques. Et de l'autre côté, il y a aussi les risques. Donc évidemment, alors c'est pas trop une surprise, mais c'est les scénarios les plus frugaux, donc 1 et 2, qui ont le moins d'impact sur les écosystèmes. Et donc, pour répondre aussi à la deuxième partie de la question sur les matériaux biosourcés, globalement, ce niveau de détail n'a pas été beaucoup poussé dans les scénarios, même si le recours au bois, il est quand même envisagé globalement dans tous. C'est-à-dire que ce qui reste de construction, il y a quand même une part croissante du bois dans chacun des scénarios, et qui est plus poussé dans les scénarios 1 et 2, parce qu'en préservant les écosystèmes, ils nous rendent aussi plus de services, et on peut aller chercher plus de matériaux potentiellement dedans. Mais ça, c'est à la condition, évidemment, qu'on les maintienne en bonne santé, parce que sinon on scie la branche sur laquelle on est assis.
Et dans le troisième, il y a une concurrence d'usage, effectivement sur la biomasse, puisque vous disiez on utilise beaucoup la biomasse, donc entre construction et puis les énergies renouvelables biomasse.
Merci, on avait une question ici, on vous écoute.
Oui, par rapport à vos différents scénarios, très bien cette image, si vous pouvez juste revenir sur l'image avec les deux images de ville, celle d'avant. Voilà. Est-ce que finalement, dans vos scénarios, l'image de la ville que l'on a reverdie, de la métropole où on amène encore beaucoup de monde, est-ce que finalement la ville a un avenir ? Est-ce que par rapport à toutes ces populations qu'on ramène, ces villes qu'on doit reverdir, est-ce que finalement la ville a encore un avenir ? Ou est-ce que finalement le scénario des petites villes, des toutes petites, alors j'ose même pas dire métropolisation, mais de toutes petites zones urbaine, finalement, n'est pas un avenir plus viable à terme que ces grandes métropoles que l'on nous oblige aujourd'hui à verdir.
Merci pour cette question.
Oui, en tout cas, alors, ça c'était un exercice un peu compliqué pour nous. On n'a pas voulu dire quel était le meilleur scénario.
Mais oui, parce que moi j'allais vous poser la question. Mais bon, on ne saura pas alors.
Voilà, chacun en tant a un avis personnel, je pense, à l'ADEME.
En tant qu'ADEME, voilà, on s'est dit, on donne cela à réfléchir et nous, on ne prend pas position. Bon. Ça veut dire que dans le scénario 3 et dans le scénario 4, vous êtes sur des grandes villes qui sont, vous le voyez, néanmoins très, très vertes pour pouvoir apporter un peu de stockage de carbone, etc. Quoi.
Après, le scénario, pour compléter, le scénario 1, il est quand même sur, et 2, il paraît quand même sur des pôles urbains plutôt déconcentrés de plus petite taille. Donc il y a quand même une différence entre les scénarios. Et effectivement, il y a des scénarios qui sont plus métropolitains parce que c'est aussi... moins de changements d'habitude, donc on trace les trajectoires tendancielles beaucoup plus et on compense. Et donc ça veut dire que la tendance actuelle, c'est plutôt la métropolisation. Les scénarios S1 et S2, ils vont plus quand même en rupture avec cette tendance, et ils vont avoir tendance à privilégier les centres urbains secondaires, et voire même les milieux ruraux dans le scénario 1, où là c'est peut-être encore plus poussé sur ces types de milieux.
En tout cas, c'est ce que disait Florian, c'est bien les modes de vie, à un moment, qui vont structurer effectivement comment les gens vivent et là où ils vivent. Et donc, dans le scénario 3 et 4, si on veut effectivement avoir ces technologies, etc., ça pousse vers la métropolisation.
Merci. On va prendre une dernière question.
Oui, une question sur votre réflexion de dire on va construire de moins en moins de logements neufs et on va en réhabiliter de plus en plus. Et vous avez même dit en 2050, la totalité des logements existants sont rénovés en France. Combien de logements existants ? 25 millions aujourd'hui en France à peu près ?
Un peu plus, je dirais.
Un peu plus. Bon, on a fait un petit calcul parce qu'on a vu qu'il y a des résidences secondaires là-dedans. 37 millions et une partie de résidences secondaires. En imaginant 25 millions de logements à rénover, 25 ans, 1 million de logements à rénover. Est-ce qu'on a mesuré les capacités à le faire ? Le coût ? Parce que pour pouvoir travailler, enfin, nous qui produisons du logement neuf et qui regardons la question du logement en rénovation, on sait très bien que le coût en rénovation, en général, est plus cher que la production de logements neufs. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion sur ce plan-là ? Est-ce qu'on ne se fait pas un peu des scénarios un peu illusoires ? Question peut-être un petit peu délicate.
Soutenue, manifestement.
Je pense que, enfin, c'est dans le feuilleton, il y a des détails hein, sur le sujet. C'est quand même modélisé. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur le long terme, le pari sur la rénovation, qui est hyper ambitieux, on est d'accord, et ça fait très longtemps moi, que je travaille sur ces sujets au départ dans le Grenelle, où on commençait déjà à dire il faut rénover et qu'on n'atteint jamais les niveaux de rénovation qui sont escomptés, finalement. Donc je partage le constat. Pour autant, je suis aussi d'accord avec la nécessité, et même si la marge paraît haute, faut y aller quand même, en fait. Donc voilà. Et oui, il y a un sujet économique. Après, ce que je pense que c'est là où je trouve qu'il y a aussi un vrai sujet pour le milieu de l'immobilier, c'est peut-être aussi comment on recrée des modèles, des modèles d'affaires, peut-être qui arrivent à résoudre cette question. Moi, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est un mur. Si on demande à une copropriété de faire sa rénovation, pour l'avoir expérimenté même très personnellement, ça ne marche pas, en fait. Donc, mais pour autant, ça reste rentable. À long terme, ça reste rentable de faire de la rénovation. Donc, il y a un sujet de modèle économique de la rénovation qui, aujourd'hui, n'est pas résolu.
Juste pour conclure, parce que je pense que voilà, le temps passe.
On est bien. Il est temps, effectivement. Ouais.
Non. Ce qui est important de voir, ne prenez pas ces scénarios comme étant effectivement quelque chose qui va se réaliser, qui doit se réaliser, etc. Encore une fois, on a fait ces scénarios pour donner à réfléchir, pour donner à échanger et pour montrer les chemins possibles. Et à chaque fois qu'on le présente, forcément, ça questionne la question que vous venez de poser, les petits applaudissements qu'il y a eu, etc. Bien sûr, vous êtes dans des réalités, vous vous dites, mais tout ça, c'est fictif, c'est complètement fictif. Mais ce qui est important, c'est de se dire, regardons les choix qu'on a à faire. Et je vous rappelle, on a fait cet exercice pour les présidentielles. Regardons les choix qu'on a à faire en termes d'enjeux, de mode de vie, etc. Comment, vers quelle société on veut aller. C'est ça qu'on interroge à travers ces scénarios-là, et c'est pour ça qu'on les a fait tellement différents, pour que justement ça alerte et ça questionne. Voilà. Et c'est ce travail-là, et moi en travaillant avec les collectivités, en travaillant avec les industriels, etc., quand on le présente, c'est ça qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce que je veux, moi, même en tant que citoyen, même en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je veux, moi, en tant que... Et pour certains, ça veut dire, ah oui, il faut que je change mon modèle, comme le disait Florent. Il faut que je change ma manière de faire. Et si je le fais, voilà pourquoi je le fais. Donc c'est ça qu'amènent ces scénarios. Et il ne faut pas les prendre, effectivement, même si, encore une fois, on les a très documentés. C'est-à-dire qu'on sait que c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une question qui amène à réfléchir et à discuter. J'espère qu'au repas, dans les cafés, vous allez dire, ben, moi, je suis plutôt S2 qu'S3.
C'est très possible. Merci beaucoup de nous avoir apporté cette matière à réfléchir. Merci à tous les deux. Effectivement.